C'est le temps où nous ouvrons la parole pour que le Seigneur nous parle. Je vous invite tout d'abord à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions parce que ta parole durera toujours. Tu nous l'as donnée. Et toi-même, tu as dit que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera point. Nous te remercions pour, Seigneur, cette autorité que constitue ta parole, cette vérité, Seigneur, qui, Seigneur, est comme les fondements de l'univers, Seigneur. Tu nous révèles des choses qui constituent, Seigneur, la base de notre foi, et nous te remercions. Parce que ce matin, tu l'actualises encore pour chacun de nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire deux passages. Un dans 1 Corinthiens 3, verset 1er jusqu'à 6. La première épître de Paul aux Corinthiens. Chapitre 3, verset 1er. Non, chapitre 2, pardon. Oui, on lira le 3 après. Chapitre 2, verset 15. Non, 14. 14. 14, 15, 16, et ensuite... Alors, 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Ça, c'est la première lecture. La deuxième, c'est au chapitre 3, verset 1er. Je les sépare parce que ils n'ont pas le même contenu dans l'enseignement. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et un autre passage qui a été écrit par Pierre, l'apôtre Pierre, donc la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 5. On va lire le verset 4 également, donc 1 Pierre 2, 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà, on arrêtera là les lectures qui soutiennent un peu l'enseignement de ce matin. Donc, approchez-vous de lui, pierre vivante. Hein. Vous êtes tous des pierres, hein, mais des pierres vivantes. Hein. Donc, nous sommes conviés à nous approcher de Dieu et pour former une maison spirituelle. Voyez-vous, nous formons, l'Église forme une maison spirituelle. Vous voyez déjà que là, on est loin d'une maison naturelle, hein. Et pourtant, c'est une maison. Donc, vous voyez, le terme maison peut se rapporter à plusieurs compréhensions, hein, naturelles, un toit sur lequel on est physiquement. Et sur le plan spirituel, c'est aussi un toit, hein, c'est aussi un endroit ce bâtiment, mais là, c'est le bâtiment physique, mais nous, nous sommes la maison spirituelle. Donc il faut bien comprendre les choses spirituellement de manière spirituelle et les choses naturellement de manière naturelle. Les deux choses sont différentes. Vous voyez que l'apôtre Paul, non seulement il disait aux Corinthiens, qui habitaient à Corinthe, je n'ai pas pu vous donner de la nourriture solide, de la nourriture spirituelle solide, parce que vous êtes des enfants, des petits-enfants. Et on peut être des petits-enfants. Et non seulement il leur a dit « je n'ai pas pu », mais il dit « je continue à ne pas pouvoir vous le donner », puisque vous continuez à être des enfants spirituels. Enfin, des enfants, des petits-enfants, des bébés. Hein. Ça veut dire qu'il ne retire pas le statut de chrétien, de né de nouveau. Il reconnaît que les Corinthiens sont nés en Christ, mais qu'ils sont des petits bébés. Spirituel. Et quand vous avez des petits bébés naturels, eh bien, vous pouvez pas leur demander ce que vous demandez à un adulte. Il ne peut pas supporter, on commence à voir grandir le petit Johan. Mais, vous voyez, on peut pas lui demander la même chose qu'un adulte, qu'une personne adulte. Or, nous devrions être des adultes spirituels. En Christ. Et très souvent, les chrétiens sont encore des bébés spirituels. Et c'est toute la différence entre le domaine naturel et spirituel. Quand on est des bébés en Christ, on marche, tout en étant connaissant le Seigneur, on marche dans le domaine naturel. Et on ne comprend pas les choses spirituelles. Et donc, nous sommes invités à grandir dans notre être spirituel. Donc ce matin, ce message est intitulé les marques de l'homme spirituel, les signes d'une vraie spiritualité. On peut se poser la question, est-ce que je suis bébé? Est-ce que je suis un enfant? Est-ce que je suis un adolescent? Est-ce que je suis un adulte spirituel? Voyez. Donc, je vais essayer de vous donner, au travers du message qui a été donné par Aidan Tozer, une fois de plus, on découvre un petit peu ce chrétien qui a vécu il y a un siècle, à peu près, au demi-siècle, aux États-Unis, en Chicago, et qui a donné ce message, et je voudrais un peu l'actualiser pour nous. Quels sont les sept signes qui nous permettent de nous repérer? Est-ce que nous sommes spirituels ou est-ce que nous sommes naturels? Voilà, donc ça vous donnera des repères. Alors, il commence son message. Comme ça, en disant que le concept de spiritualité, donc Tozer, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est un homme qui a vécu à Chicago en tant que pasteur, pendant 31 ans il était pasteur, et c'est un homme de prière qui a écrit beaucoup de choses. Vous pourrez lire des pensées qui ont été écrites par lui, et vous pouvez les lire en toute confiance, parce que c'est un homme vraiment ancré dans le Seigneur. Donc le concept de spiritualité varie d'un groupe de chrétiens à l'autre. Il y a beaucoup de groupes aujourd'hui, hein, de chrétiens. Dans certains milieux, on considère comme très spirituel le bavard qui parle de religion, continuellement. Vous avez déjà rencontré des gens qui parlent tout le temps de religion, spirituellement, non? Non? Levez la main parce que ça me permet de voir si on est sur la même longueur d'onde. Vous avez déjà rencontré des bavards spirituels? Ouais, voilà. Donc voyez ce que je dis. D'autres, et bon, on considère ces gens-là dans certains milieux. Hein, je critique personne, je fais juste un constat. Enfin, avec Tozer, hein, qui déjà, vous voyez, il y a 100 ans a repéré les mêmes choses. Hein, c'est humain. D'autres, donc, milieux considèrent qu'une exubérance tapageuse est une marque de spiritualité. Est-ce qu'il y en a qui ont vu déjà des exubérances tapageuses considérées comme des vraies spiritualités? Alors, ça peut être une exubérance dans la louange, parce que il y a beaucoup de bruit tapageuse. Ça peut être dans le moment de prière. Enfin, voilà, une exubérance tapageuse. Et c'est considéré comme spirituel. Dans d'autres églises, celui qui prie le premier. S'il y en a déjà qui ont repéré ce genre de spiritualité, celui qui prie le premier? Non, je ne veux pas de me lever. Moi, je ne veux pas me lever parce que j'en ai vu. Michel aussi, mais il n'ose pas. Non, mais attends, il rectifie après. C'est considéré comme spirituel. Celui qui prie le plus fort, il y en a qui ont repéré ça. Le plus fort. Le plus longuement, il y en a qui ont repéré ça. Hein? Celui qui prie 5 minutes, voilà. Et tout le monde s'endort. Et... Mais bon, voilà, c'est le plus spirituel. Alors, ces choses-là, bon, dit-il, s'acquièrent la réputation d'être l'homme le plus spirituel de l'assemblée. Alors, il est vrai, dit-il, qu'un témoignage vigoureux, des prières fréquentes et une louange sonore peuvent aller de pair avec une vraie spiritualité. Mais il est important que nous comprenions que tout cela ne constitue pas en soi la preuve que la spiritualité soit présente. Vous êtes d'accord avec ça? Ah. La vraie spiritualité, dit-il, se manifeste par certains désirs dominants, donc une soif, un désir. Ce sont des besoins permanents, profonds et suffisamment puissants pour motiver et contrôler notre vie, moi je dirais plutôt diriger notre vie. Le contrôle est plutôt une emprise où on est plus libre, non, c'est plutôt diriger notre vie. Permettez-moi d'en donner une liste succincte. Par commodité, je ne ferai aucun effort pour tenter de déterminer leur ordre d'importance. Donc, il va repérer 7 signes. Et donc, l'ordre qu'il donne n'est pas un ordre croissant ou décroissant, c'est un peu pêle-mêle. Mais si vous rencontrez ces signes, ça peut vraiment être un signe de vraie spiritualité. Tout d'abord, et l'ensemble de ces signes, voyez-vous, dit-il, sont basés sur un désir. Intervenait pendant la formation, il y a 1 an d'ailleurs, pour un peu cela, quand il y était. Il aimait beaucoup le mot motivation. Pourquoi, à votre avis? J'ai vu que quand quelqu'un disait le mot motivation, il dit, ah ouais, ok, c'est un bon mot ça. Pourquoi? Pourquoi le mot motivation, à votre avis, en l'occurrence ici, dans cet enseignement sur la vraie spiritualité, prend son sens? Pardon? Oui. Oh bah, c'est toujours pareil, moi je suis comme vous, je suis handicapé parce que je suis de formation scientifique et ma femme elle trouve toujours parce qu'elle est de formation littéraire. C'est le problème de l'origine des mots, quoi, qui nous donne tout de suite le repère. Parce que les mots sont basés sur, comment ils appellent ça, l'étymologie, quoi. Voilà. Et l'étymologie de motivation, ça vient de quoi? Les moteurs. Brum, brum, brum. Moteur, motivation, voyez? Moteur, voilà. C'est le moteur. Voyez? Et quand vous comprenez que motivation, il y a un moteur, ça veut dire qu'il y a un moteur dans votre machine intérieure, là. Vous voyez? Ça vous motive, c'est une motrice, comme la motrice d'un train qui tire, vous voyez? Donc, les vrais signes de spiritualité, ces signes-là, quand ils sont en vous, c'est un moteur, ça vous tire en avant, voyez-vous? Voilà. Donc le mot motivation, pour moi, est là. Ce sont des désirs dominants, des motivations prioritaires dans votre vie, oui, qui vous donnent le sens de votre marche, ce qui vous tient. Alors le premier, c'est le désir d'être saint. On ne revient pas sur la sainteté elle-même, on en a déjà parlé, mais le désir d'être saint, plutôt que heureux. Il y en a qui veulent être heureux, tout le monde veut être heureux, hein? Mais si le désir d'être heureux vient avant le désir d'être saint, eh bien c'est pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un bon chrétien. Enfin, ça ne juge pas de votre qualité de chrétien, de salut, mais ça juge de votre spiritualité. Oui. Si vous voulez vraiment être spirituel, ou si vous êtes vraiment spirituel, eh bien, le désir d'être saint va venir avant le désir d'être heureux. Il y a beaucoup de... Ces derniers temps, on n'entend plus les messages sur Channel parce qu'on ne reçoit plus. Nos arbres ont grandi, il faut couper les arbres parce que les satellites cachent les satellites. Mais aux États-Unis, ils sont beaucoup préoccupés actuellement, mais aussi à l'époque de Tozer, par le fait que les chrétiens veulent être heureux. Et même des pasteurs. Les pasteurs divorcent, et il justifie le divorce en disant Dieu, il veut mon bonheur. D'accord? Donc, s'il veut mon bonheur, moi, je suis malheureux avec cette femme-là. Donc, c'est normal que j'ai le droit de divorcer. Voyez-vous, c'est un sophisme. C'est-à-dire, c'est une manière de se justifier avec les mots, en s'écartant de la parole, mais en cherchant des concepts. Le concept de bonheur. Dieu veut que je sois heureux. Je suis pas heureux avec cette femme-là parce que me reprend la vie des phases difficiles. Enfin, bref. Donc, je peux divorcer, j'ai le droit, parce que Dieu veut mon bonheur. C'est pas du tout ce que dit la Bible. Mais c'est comme ça qu'on se justifie. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens se justifient au travers de ce concept-là. Mais si vous cherchez la sainteté, vous n'allez pas utiliser cet argument du bonheur. Dieu vous donnera le bonheur, mais c'est pas à vous de chercher le bonheur, c'est à vous de chercher la sainteté. Pourquoi ? Parce que Dieu a dit que vous serez saints comme je suis saint, voyez-vous ? C'est la sainteté qui amène le bonheur, c'est pas le bonheur qui amène la sainteté, vous voyez ? C'est mettre la charrue avant les bœufs. Donc tout d'abord le désir d'être saint plutôt qu'heureux. Le désir de bonheur, qu'éprouvent tant de chrétiens faisant profession de foi, de posséder un degré supérieur de sainteté, suffit à trouver qu'une telle sainteté n'est pas réellement présente. L'homme véritablement spirituel sait que Dieu nous comblera abondamment de joie dès que nous serons capables de la recevoir sans mettre notre âme en danger. C'est pour cela que l'homme spirituel n'exigera pas immédiatement le bonheur. John Wesley, vous connaissez John Wesley ? C'est les méthodistes, le mouvement méthodiste est créé par John Wesley en Angleterre. Parlant des membres de l'une de ses premières sociétés méthodistes, disait qu'ils doutaient qu'ils avaient été rendus parfaits quant à l'amour parce qu'ils venaient à l'église pour y trouver leur satisfaction et non pour y apprendre à devenir saint. Voyez-vous, quand vous venez dans une église pour trouver votre satisfaction, et à un moment donné, il y a un frère qui nous a dit « Ah, pour que votre église marche, il faut que vous fassiez du marketing spirituel. » C'est-à-dire que vous cherchiez ce que les chrétiens ont besoin. Par exemple, s'ils ont besoin que leurs enfants soient bien enseignés, vous faites une bonne école du dimanche, et ça va attirer les chrétiens. Et vous répondez à des besoins légitime, mais l'approche marketing de l'église, voyez. Et donc, du coup, vous attirez des chrétiens, votre église va grandir. Et il y a beaucoup d'enseignements là-dessus, en particulier aux États-Unis, qui sont très forts en marketing. Donc, est-ce que c'est ça, l'église? Est-ce que c'est de répondre à un besoin même légitime? Ou est-ce que c'est de venir à l'église pour y apprendre à devenir saint? Voyez-vous? C'est là que les frontières changent au niveau des églises. C'est dans le désir, dans la motivation, dans la recherche. Pourquoi je viens à l'église ? Est-ce que je viens parce que mes enfants, ils sont bien, ils ont des belles écoles du dimanche, qui parlent bien, qui ont... Vous voyez, est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que c'est qu'ils apprennent à devenir saints ? Allô ? Je me fais comprendre. Voyez-vous, c'est la recherche première de devenir saint comme Dieu est saint, c'est-à-dire de se séparer du mal, de chercher à savoir ce qui déplaît à Dieu, ce qui plaît à Dieu, etc. Voilà, c'est ça les marques de la vraie spiritualité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on peut considérer qu'un homme est spirituel quand il veut voir exalter l'honneur de Dieu dans sa vie. Voyez-vous, l'honneur, c'est très important. Je vous parle pas en spécialiste, mais je crois savoir que, par exemple, en Corse, l'honneur est très important. si vous bafouez l'honneur, c'est par exemple, il y a une fille qui n'est pas respectée, les frères, ils vont venger leur sœur. Hein. L'honneur, la mafia, c'est basé sur l'honneur. Bon, vous voyez, c'est très humain, l'honneur. Mais en tant que chrétien, nous devrions avoir ce souci de voir exalter l'honneur de Dieu. Et si vous entendez dans votre entourage, dans vos collègues de travail, etc., bafouer le nom de Dieu, et que vous restez dans leur présence, quelque part vous approuvez ce qu'ils font, eh bien, ça attriste le Saint-Esprit. Vous voyez, donc vous avez une attitude. Il ne s'agit pas de les reprendre en disant, bon, ça y est, vous blasphémez, machin, etc. Bon, non, mais le fait de montrer que vous n'êtes pas d'accord, de vous retirer de leur présence, une fois, deux fois, trois fois, ils vont comprendre, ils vont vous respecter aussi. Mais ils vont d'une façon, toute une attitude, mais ça commence d'abord dans votre cœur. Si vous avez envie de voir exalter le nom de Dieu. Voyez-vous, dans nos cultes, on dit pratiquement chaque fois ce passage de Philippiens, hein, où il est dit que Dieu a exalté son Fils, et c'est dans le nom de Jésus que toutes choses sont unifiées, toutes choses deviennent de un sens. Donc dans le nom de Jésus, ce nom, nous avons besoin de l'exalter. Et c'est ce que nous faisons dans nos cultes, mais aussi dans toute la semaine. Pas simplement au culte. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors ? Donc, voyez-vous, c'est une marque de spiritualité quand nous sommes nous-mêmes, comment dirais-je, un peu que notre esprit, hein, sent cette tristesse de voir que le nom de Dieu n'est pas élevé en honneur. Donc, on peut considérer qu'un homme est spirituel quand il veut voir, hein, il ne peut pas toujours y arriver, on est pris dans des contraintes, mais quand il veut voir, hein, exalter l'honneur de Dieu dans sa vie, et même s'il doit en souffrir temporairement un déshonneur ou une perte. Un tel homme priera ainsi, que ton nom soit sanctifié. Ça vous dit quelque chose, ça ? Prière de Jésus ? Il ajoutera silencieusement quel qu'en soit le coup pour moi, Seigneur. Quel qu'en soit le coup pour moi. Amen. Il vit pour la gloire et pour l'honneur de Dieu par une sorte de réflexe spirituel. Tous ses choix sont déjà faits d'avance pour la gloire de Dieu avant même qu'il se présente. Il n'a pas besoin d'en débattre dans son propre cœur, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien à débattre. La gloire de Dieu lui est indispensable, il la recherche avec la même avidité qu'un homme qui suffoque, cherchant à respirer. Voyez-vous, c'est cette désir, cette soif, cette motivation intérieure qui le pousse dans ce sens. Le troisième élément, le troisième signe d'une vraie spiritualité, c'est l'homme qui veut porter sa croix. Alors pas comme les catholiques, hein, qui l'enseignent, qui au chemin de croix, etc., portent leur croix. Porter sa croix, c'est une autre signification dans la Bible. Beaucoup de chrétiens acceptent, en soupirant l'adversité ou la tribulation, et les considèrent comme leur croix. Ils oublient que ces choses arrivent aussi bien aux saints qu'aux pécheurs. Il y a eu des tribulations en Haïti, c'est tombé sur les chrétiens et les non-chrétiens. Donc ça, c'est pas une marque de spiritualité que de se faire souffrir un peu plus en portant une lourde charge ou en se mettant des cailloux dans les chaussures, dans le pèlerinage. C'est pas ça, la spiritualité. La croix, c'est cette adversité particulière qui nous atteint en raison de notre obéissance à Christ. Voyez-vous, c'est quand nous obéissons à Christ. Quand le patron, par exemple, vous dit, si vous êtes secrétaire, eh bien, vous dites que je suis pas là. Et quand vous dites à votre patron, bah, écoutez, je peux pas parce que je suis chrétien. C'est un mensonge. Voyez-vous, l'obéissance à Christ vous fera souffrir. Parce que, il peut même aller, dans certains cas, à vous licencier si vraiment il tient à ce que vous fassiez ce qu'il vous dit. Mais est-ce que vous acceptez cette souffrance-là pour l'honneur de Dieu, pour l'honneur de sa parole ou non? C'est là la vraie spiritualité. Voyez-vous? Alors, Oui, c'est pas de s'affliger soi-même, ça c'est facile. Parce que quelque part, en fait, on passe pour un héros, enfin bon, il y a des, comment dirais-je, des bénéfices secondaires, comme on dit, hein, dans le fait de se faire souffrir. Mais c'est quand vous rencontrez, il n'y a pas besoin de la chercher, hein, les difficultés, mais quand vous rencontrez une difficulté, que vous faites un choix d'obéir à Christ, d'obéir à sa parole. Et que là, vous souffrez, ça c'est porter sa croix. Je vous me fais comprendre? C'est ça le vrai sens de porter sa croix. Personne ne nous force à porter cette croix. Au moment où vous êtes devant le choix, vous pouvez très bien dire, oh, bon, je ne vais pas le dire, ou vous voyez, vous êtes libre. Mais si vous êtes motivé, cette motivation, elle va vous aider à porter la croix, à dire, bah, tant pis, je préfère souffrir que de me laisser aller à ce que le monde m'oblige à faire. C'est nous qui volontairement nous chargeons à porter cette croix dans la pleine connaissance de toutes les conséquences. Nous choisissons d'obéir à Christ et par là même nous choisissons de porter notre croix. Porter une croix signifie être attaché à la personne de Christ, être engagé à accepter la seigneurie de Christ, être décidé à obéir au commandement de Christ. L'homme qui est ainsi attaché, engagé, décidé, est un homme spirituel. Prenons l'exemple de Pierre. Pierre, il pensait être un homme spirituel. Quand il a dit à Jésus, « Oh Seigneur, non, pas ça, tu vas pas mourir. Jamais, jamais on te laissera faire une chose pareille. Tu es notre maître, tu es Jésus, voilà l'homme spirituel. Vous voyez, il fait des grandes déclarations. Et à peine Jésus est arrêté, et qu'une simple servante qui passe en disant, mais toi aussi, je te reconnais, je me rappelle, tu es un des disciples. Non. C'est bon. Voyez-vous le réflexe? Et trois fois comme ça. Jusqu'au moment où le coq a chanté, il s'est rappelé les paroles de Jésus. Qu'est-ce qu'il était à ce moment-là, l'homme Pierre? Un homme spirituel ou un homme charnel? Un homme charnel. Est-ce qu'il aimait Jésus ou est-ce qu'il aimait pas? Il aimait Jésus. Mais c'était l'homme charnel. Alors? Est-ce que nous, parfois, nous ne sommes pas comme ça? Bien sûr que nous sommes pas comme ça. Mais nous sommes appelés à devenir des hommes spirituels. C'est-à-dire, au moment où cette interaction se produit, mais toi aussi, tu es de ceux-là. Non. Voyez-vous, le réflexe. Mais si le réflexe est dit, oui. Voyez-vous la différence entre l'homme naturel qui dit, mais non, pourquoi? Parce que les conséquences, c'est, ah, oh, c'est horrible, tous les soldats romains, tout ça, qu'est-ce qui va se passer, etc. Non. Mais l'homme spirituel va dire tout de suite, oui. L'homme, vous voyez, c'est la motivation. Quel est le moteur dans votre voiture? Si le moteur c'est oui, pourquoi? Parce que vous connaissez Jésus, vous savez qui il est, vous connaissez sa puissance, vous savez tout ça. Et oui, c'est oui. C'est pas non. Et ça, c'est l'homme spirituel. Et ça, on le voit, quelqu'un porte sa croix, immédiatement, il a le réflexe de l'homme spirituel. Quatrième signe de l'homme spirituel. Un chrétien est spirituel quand il considère toute chose du point de vue de Dieu. Ça, ce sont les valeurs. Les valeurs du royaume. La marque d'une vie remplie de l'esprit est la capacité à évaluer toute chose à l'aune de Dieu et de ne accorder que la valeur que le raccord de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, de très très bons chrétiens, des chrétiens consacrés, spirituels même, à certains égards, qui, dans la vie concrète, parfois, viennent rendre la vie difficile à toute la famille, parce que ils mélangent des valeurs humaines avec des valeurs spirituelles, en les plaçant au même niveau, et tout le monde souffre un peu de cette situation. C'est dommage. Les choses peuvent changer, mais c'est souvent comme ça. Comment est-ce que Dieu, une chose par exemple, je l'analyse, qui fait sourire la famille, quel est le niveau d'évaluation dans le royaume de Dieu? Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Dieu peut en même temps voir les choses et au travers des choses, Son regard ne reste pas à la surface, mais il pénètre au cœur de la véritable signification des choses. Le chrétien charnel regarde un objet ou une situation, mais il ne voit pas au travers. C'est toute la différence entre Dieu et nous. Nous, on voit la surface, l'apparence. Dieu voit au travers. C'est pour cela qu'il est vite encouragé ou déprimé par ce qu'il voit. L'homme spirituel est capable de voir au travers des choses comme Dieu le fait et pense à leur égard ce que Dieu pense aussi. Il tient à voir toutes choses comme Dieu les voit, et même si cela doit l'humilier et manifester douloureusement son ignorance. Quand on voit une chose, quand on voit une situation, on dit « Ah, c'est pas possible, c'est pas Dieu. » Pourquoi ? Parce que ça bloque peut-être notre projet, ça bloque peut-être une chose qu'on voit. Mais la chose en elle-même, elle a une profondeur. Et comme nous, on la voit pas la profondeur, mais que Dieu la voit, il y a des choses qui vont se passer après. Et Dieu peut renverser les choses. Dieu peut changer les situations. Et au travers d'une situation qui peut être bloquante, qui peut être, disons, contraire à ce que nous voulons, bah, Dieu peut faire des choses, et nous pouvons le laisser faire des choses si nous laissons Dieu faire. Mais très souvent, le chrétien charnel, il reprend les choses en main parce que, ah ben non, Seigneur, c'est pas possible, j'ai demandé ça, et voilà ce qui se passe, c'est l'inverse. Donc ça vient pas de toi, et donc je reprends les choses en main. Non, non. L'homme spirituel, il laisse Dieu en autorité jusqu'au bout. Vous voyez? Pourquoi? Parce que il sait que Dieu voit au travers de ça, alors que moi je vois que la surface. Donc l'apparence, c'est peut-être tout à fait contraire à ce que j'ai demandé, mais en profondeur, Dieu va faire des choses que, autrement, mais ça ne pourrait pas se faire. Vous voyez? Tout à fait. David, pendant des années, il a été institué roi. Dieu l'a oint par Samuel. Et pendant des années, il a galéré sans avoir la royauté. Mais Dieu l'a formé. Dieu l'a formé. Et comme il avait le cœur de Dieu, le cœur selon Dieu, il a laissé Dieu faire. Et il a préconisé l'honneur de Dieu. Parce que il savait que si Dieu n'avait pas destitué Saül, c'est qu'il y avait une raison. Il la connaissait pas, mais il y avait une raison. Et il respectait Dieu. Et même s'il était institué roi, eh bien, il attendait son heure. Mais ça, c'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est un homme spirituel qui peut faire ça. Alors, quand je dis homme, c'est homme-femme, hein, c'est l'humain spirituel qui fait ça. Donc, considérez les choses du point de vue des valeurs du royaume de Dieu. Et il y a certains chrétiens qui ont des valeurs mélangées et qui font souffrir leur famille. Pourquoi ? Parce que ces valeurs sont un héritage naturel, sont un héritage familial, sont toutes sortes d'héritages naturels qui pensent être bien, bien sûr, ça peut, c'est bien en soi. Mais ce qui est important en soi, c'est les valeurs du royaume qui sont avant les autres. C'est la paix de la famille, c'est la joie de la famille. Bon, tant pis si telle ou telle chose ne sont pas exactement ce qu'il faut, mais il faut privilégier la paix, la joie, l'unité, l'harmonie de la famille. Vous voyez, il y a des profondeurs dans les valeurs du royaume. Et c'est ça qu'il faut savoir analyser et les mettre en place pour que le Seigneur puisse régner. Cinquième signe, c'est de préférer la mort à une vie mal vécue. Assez fort, hein. C'est vraiment crescendo, là. Enfin, il a dit que c'était dans n'importe quel sens. Mais... Un autre désir de l'homme spirituel, c'est de préférer la mort à une vie mal vécue. Une marque certaine de l'homme de Dieu mûr est son indifférence devant la mort. Le chrétien qui aime cette terre et qui est attaché à son corps considère la mort avec une terreur muette dans son cœur. Mais à mesure qu'il apprend à vivre selon l'esprit, il devient de plus en plus indifférent au nombre de ses années ici-bas. En même temps, il devient de plus en plus soucieux du genre de vie qu'il peut mener sur cette terre. Il n'acceptera jamais d'acheter quelques jours supplémentaires de vie terrestre au prix du compromis et d'échec. Il désire avant tout être droit. Il est heureux de laisser Dieu décider du nombre de ses jours. Il sait qu'il peut se permettre de mourir, maintenant qu'il est en Christ. Mais il sait aussi qu'il ne peut pas se permettre de faire le mal. C'est cette connaissance qui devient un gyroscope qui permet de stabiliser ses pensées et ses actions. Alors je voudrais défendre un peu le point de vue de Tozer, où on pourrait, à partir de ce signe, déduire le fait que tout le monde doit chercher à ne pas résister à la mort si elle vient, etc. Je ne pense pas que ce soit ça qu'il ait voulu dire. Ou par exemple, une mère de famille qui est au point de mourir avec des enfants derrière et que cela va être éduqué par... Non, je crois qu'il faut se battre, hein, pour rester en vie, etc. Mais ce qui veut dire, c'est l'attitude de cœur. La preuve, c'est que lui, à un moment donné, il y a ses collaborateurs qui ont vraiment rigolé parce que j'ai lu un extrait là de ça. Mais je vais vous lire comme ça sera plus simple, plutôt que de nous raconter. Et ils se sont marrés. Voilà. Pourquoi? Où est-ce que c'est ce passage-là? Faudrait que je vous le raconte de mémoire, alors, parce que dans les médias, je le retrouve plus. Bon, l'idée, c'est que il était en prière, hein, comme souvent, avec ses collaborateurs, et puis le téléphone a sonné. Il a pris le téléphone, les autres ont arrêté la prière, et puis pendant 1 heure et demie, je crois, il a parlé avec un pasteur, qui était un peu au bout du rouleau. Il lui a dit surtout prends du repos, prends du congé. Enfin bon, il n'arrêtait pas de dire ça. Et puis il se marrait parce que lui, dans sa vie, j'ai jamais pris un seul jour de congé. Mais vous voyez, il était capable de donner des conseils avisés, sages, un pasteur, un collègue qui avait besoin de ça. Et lui, il n'avait pas besoin. Bon, vous voyez, comme les talents tout à l'heure. Et donc ses collaborateurs, ils rigolaient parce qu'il disait exactement le contraire de ce qu'il faisait. Lui n'a jamais pris un seul jour de congé de toute sa vie, mais il a donné ce temporaire. C'est pour montrer que il ne développe pas ce point pour dire il faut absolument que vous cherchiez la mort avant tout. Non, c'est une motivation intérieure, c'est-à-dire ne pas s'attacher à la vie comme si c'était tout, parce que cet attachement à la vie essaie d'amener les possessions du monde, de toutes ces choses, hein, qui vous étouffent, hein, et surtout de faire des compromis et des échecs. Très souvent, les hommes politiques, je sais que Mamadou Karambéry, vous connaissez bien, il nous a dit que le président de la Côte d'Ivoire, il avait reçu donc au Burkina Faso, et s'est converti. Il s'est converti, vraiment une conversion extraordinaire. Il l'a amené au Seigneur et tout ça, sa femme aussi et tout. Et puis, il est devenu président de la République en Côte d'Ivoire. Et très vite, la franc-maçonnerie l'a approché et c'était terminé. Terminé. Compromis, acheter, tout ça, et plus rien. Bien sûr, ça c'est au niveau du pouvoir, hein, que c'est très fort, mais à tous les niveaux, il y a des compromis possibles. Et si nous nous laissons prendre par des compromis, un tout petit compromis, après ça en entraîne un autre, un autre, un autre. Donc, soyons très vigilants, et c'est ce point-là qui, concrètement, dans notre vie, est l'objet de cette véritable marque de spiritualité. La sixième marque, c'est les désirs de voir des autres progresser, même à son détriment. Progression des autres. Il veut voir, cet homme spirituel veut voir les autres chrétiens au-dessus de lui. Il est heureux quand ils sont élevés et qu'il est lui-même négligé. Il n'a aucune envie dans son cœur. Quand ses frères sont honorés, il est heureux, parce que c'est la volonté de Dieu. Et que cette volonté est son ciel sur la terre. Si cela plaît à Dieu, cela lui plaît aussi. Et s'il plaît à Dieu d'élever quelqu'un au-dessus de lui, il est satisfait qu'il en soit ainsi. Martin de Tours, qui est le fameux Saint Martin, qui en France est le plus de village qui s'appelle Saint-Martin, qui a vécu au 4e siècle. C'était un homme de cette trempe. C'était un homme qui, bien sûr, a connu des miracles extraordinaires. Il était invité par les grands de ce monde. Il refusait. Il ne voulait pas se mêler aux évêques qui l'invitaient dans les grandes villes et tout ça. Parce qu'il savait le prix de cette. Ce compromis qu'il attendait. Mais un jour, il est allé voir l'empereur Charles Quint, à l'époque l'empereur de toute l'Europe, hein, donc en Allemagne, à Cologne. Et il n'a pas fait de compromis non plus. Quand l'empereur lui a tendu la coupe au moment du repas, et la tradition, il était à sa droite, il devait la donner à l'empereur. C'était un signe que le clergé était soumis à l'empereur. Tout ça, c'était symbolique. Il a refusé. Il a donné, non pas à l'empereur, il a donné à son collègue qui était pasteur aussi. Il a dit à l'empereur, je donnerai toujours en premier la coupe à un serviteur de Dieu, avant. Avant un serviteur. Il y avait, pareil, un silence à couper au couteau, parce qu'il savait que l'empereur pouvait lui couper la tête immédiatement en disant, cet homme, vous le décapitez. Il a respecté cet homme. Parce qu'il savait qu'il était. Il savait que c'était un homme de Dieu et qu'il ne devait pas toucher cet homme. Et vous, quand vous avez. Donc, habituellement, il refusait, là, il a. Parce qu'il y avait un enjeu, parce qu'il y avait l'hérésie arienne à l'époque, grâce à lui, Saint-Martin. Et Saint Grégoire aussi, ils ont pu arrêter que l'hérésie arienne prenne toute l'Europe. Mais il ne faisait pas de compromis. Il était droit et il était à cheval sur. Il préférait voir les autres avoir des notoriétés plutôt que lui. Lui, il cherchait à faire la volonté de Dieu. Le septième et dernier point, c'est l'éternité. C'est l'éternité avant le temporel. L'homme spirituel prononce en général ses jugements ou ses appréciations, hein, dans ce cas-là, ou les évaluations à la lumière de l'éternité et non à celle du temps. Par la foi, il s'élève au-dessus des contingences terrestres et du flot du temps, et il apprend à penser et à sentir comme celui qui a déjà quitté le monde et qui a déjà rejoint l'innombrable compagnie des anges et de l'assemblée de l'Église du premier-né, de ceux dont les noms sont inscrits dans les cieux. Un tel homme préfère être utile que célèbre, il préfère servir plutôt que d'être servi. Voyez-vous, c'était le cas de Jésus. Jésus, il parlait des choses éternelles. Il parlait du royaume de Dieu. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, mais mon royaume est éternel. Nous, en tant que chrétiens, notre royaume n'est pas dans ce monde. Nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Notre royaume est éternel. Il comporte des valeurs éternelles. Il comporte des choses éternelles. Et quand nous sommes vraiment spirituels, eh bien, notre évaluation des choses, notre jugement des choses, eh bien, se fait par rapport à cette éternité. Et je conclurai en disant que toute notre vision d'Église repose sur ça. Alors, ceux qui sont habitués à la description de la vision. Il y a ici la vocation, l'appel. Qui sont des appels éternels sur nous, sur notre vie, sur notre Église, et des buts qui sont éternels parce que c'est glorifier Dieu. C'est pas simplement faire une grande église de 3 000 membres, etc., réputés, etc. Non. C'est de glorifier Dieu et d'être à la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est l'éternité, c'est inscrit. Et la mission. Qui nous permet au quotidien de nous rappeler quelle est notre mission pour atteindre ces valeurs éternelles. Et donc, nous nous élevons au-dessus du temps, au-dessus de l'égrenage du chronos, du temps qui s'écoule pour voir l'éternité et dire, bon, ben, ça, c'est pas grave. Il y a des choses plus importantes que ça. Et donc, on s'élève au-dessus de cela. Et donc, la marque de l'homme spirituel, c'est avant tout l'humilité. Et tout cela, dit Tozer, ne peut être réalisé que par l'opération du Saint-Esprit dans la vie de l'homme spirituel. Personne ne peut devenir spirituel par lui-même. Seul l'esprit de liberté peut rendre l'homme spirituel. Et c'est là que le passage qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens peut-être vous éclaire davantage que cela n'a été le cas auparavant, où l'apôtre Paul dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Voyez-vous, ce sont des choses ici qui ne sont pas reçues par l'homme naturel, car c'est une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, si nous voulons être des hommes, des femmes spirituelles, eh bien, si nous nous attachons à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu, si nous recevons, l'Esprit de Dieu va nous conduire à produire ces choses-là dans nos vies. Et nous pourrons vraiment nous réjouir de vraiment dans le Seigneur, parce que nous ne serons pas ballottés tout le temps par des choses qui nous tiraillent à droite ou à gauche, mais nous pouvons garder le cap vers le but éternel pour glorifier Dieu pour toujours. Amen. Je terminerai par une prière que Tozer a fait, qui est écrite là, qui résume un petit peu cette prière à Dieu pour devenir cet homme spirituel. Je vous la lis. Ô Dieu, j'écoutais à ta bonté, et elle m'a à la fois satisfait et rendu assoiffé d'en connaître plus. Je suis conscient avec un cœur en peine de mon besoin de davantage de grâce. J'ai honte de mon manque de désir. Ô Dieu, le Dieu Trine, je veux te désirer. J'aspire à être rempli de désirs ardents. J'ai soif d'être rendu encore plus assoiffé. Montre-moi ta gloire. Je te prie afin qu'ainsi je puisse te connaître en effet. Commence dans ta miséricorde une nouvelle œuvre d'amour en moi. Dis à mon âme, lève-toi, mon amour, celle que j'aime, et viens à ma rencontre. Ensuite, donne-moi la grâce de me lever et de te suivre depuis cette terre brumeuse ici-bas où j'ai si longtemps erré au nom de Jésus.